à Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Gilberte Lapierre, une jeune Québécoise, qui est finalement entrée chez les Clarisses à Valleyfield et qui a pris le nom de Marie-Claire et qui est devenue abbesse et fondatrice du monastère des Clarisses de Lennoxville, toujours au Québec. Et on l'appelle donc Mère Marie-Claire. Une abbesse dans un monastère de Clarisse porte la crosse et l'anneau, évidemment pas de mitre. Elle est décédée au mois de mai 1979. Je prépare donc aujourd'hui le 20e anniversaire de son décès, que l'on célébrera sans doute dans un an. Le moment était venu pour Mère Marie-Claire, en fait, de franchir pour la dernière fois la porte de son monastère quand elle est décédée, comme ça. Mais près de cette porte, ouverte pour livrer passage au cercueil de bois blond, les porteurs ont fait un arrêt et ont attendu le cérémoniaire principal. On attendait de Québec le permis d'ensevelissement. Et c'est dans le jardin même du cloître que va être inhumée Mère Marie-Claire, abbesse et fondatrice de ce monastère des Clarisses de Lennoxville. C'était le premier décès après 26 ans de fondation. Le monastère existe toujours. À présent, le cortège peut donc se mettre en marche, puisqu'on a l'autorisation. Et Mère Marie-Claire avait dit son dernier mot. Elle a voulu rester parmi ses filles dans ce jardin dont elle a soigné chaque plante, dont elle a vu grandir chaque arbre. Elle connaissait le nom de chaque fleur, elle s'intéressait à tout. C'était une femme cultivée. Et toute la douceur, tous les chants d'un printemps hâtif en ce début de mai 1979, temps magnifique, vraiment providentiel, a enchanté tout le monde qui assistait très nombreux à ses funérailles. Et il y avait 13 Clarisses. Elles accompagnent leur mère, qu'elles ont aimée, et le défilé incessant devant le pauvre cercueil laisse présager une foule bien trop nombreuse, non seulement pour la chapelle des Clarisses, mais même pour celle des franciscains voisins. Il est donc décidé que les funérailles seront célébrées en plein air et près d'un millier de personnes viennent se recueillir dans les parterres. Et cette liturgie, à même la nature, ne peut être plus en harmonie évidemment avec l'âme. L'âme si transparente et si limpide de celle qui part en cet après-midi-là vers sa dernière demeure terrestre. Avant cet été 1976, jamais ses filles ne l'ont vu manquer au cœur au réfectoire. C'était une courageuse. Elle était malade, mais elle était là tout simplement, sans ostentation. Une fidélité sans rigorisme. En mai 77, elle avait été terrassée. Oui, elle est terrassée par une pneumonie double compliquée d'une bronchite asthmatique. Elle reçoit l'onction des malades et lutte de longues semaines avec un bien pauvre reste de vie, comme un mâle qui s'entête. À l'été 77, donc moins de deux ans avant son décès, il y a une lente, très lente convalescence. Puis en octobre suivant, 77, Mère Marie-Claire Lapierre rassemble toutes ses énergies pour être là au moment de l'émission des vœux solennels de deux de ses filles. Les vœux solennels, c'est les vœux perpétuels, comme on dit dans les autres congrégations. Mais dans les grands ordres, on dit solennel. C'est un engagement comme un mariage, avec robe de noces et tout. Devant la foule réunie dans la chapelle des franciscains, sa voix, un peu altérée, mais encore ferme, si chaud, ne prononce les mots tant de fois redits par une abbesse. Et moi, si vous êtes fidèle, eh bien de la part de Dieu Tout-Puissant, je vous promets la vie éternelle. Et vient la fête de Pâques 1978, donc un an avant sa mort. Les journaux publient que le pape Paul VI, très fatigué, va enfreindre la défense de son médecin et va présider lui-même la liturgie de la vigile pascale. Longue cérémonie du samedi saint, ou de la nuit de Pâques. Il y voit une obligation de sa charge de pasteur. Mère Marie-Claire, elle en est tellement frappée que, malgré toutes les protestations de ses filles, de ses sœurs, elle va quitter sa chambre d'infirmerie. Puis en la nuit de Pâques, elle va prendre place à la chapelle au milieu de ses sœurs. Il y a un prêtre qui dit d'elle, en juin de 1978, quelques temps plus tard, après l'avoir vue, un moment à l'infirmerie, il dit « On est bien en sa présence, ah, on est donc bien en sa présence. On la sent si pleine de Dieu. Oui, j'ai pensé au mot de Saint Paul. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Et cela, on le voit chez elle. On n'a pas besoin de le lire dans un livre. Puis quelques mois plus tard, en novembre 1978, Mère Marie-Claire Lapierre doit accepter le fauteuil roulant. Ses jambes se refusent de plus en plus. Elle en est réduite à quelques minutes de marche de son lit à son fauteuil. Elle dit, quelques semaines avant son décès, « Les théologiens parlent de la souffrance, mais s'ils savaient. Oh, ce qu'il faut de foi, il faut de la foi, de la foi. » Souvent, il lui échappe ce cri de détresse. On se demande si on a encore la foi. Ça rappelle Thérèse d'Enfant Jésus. Elle est devenue, quoi, un vouloir croire confiant. Mère Marie-Claire trouve toujours une telle saveur à la vie, quand même. Même à la veille de son décès, un petit détail, quand le seul moyen de la désaltérer est d'imbiber un tampon qu'elle presse avidement entre ses lèvres, elle prend la peine d'articuler, après avoir aspiré une gorgée, « C'est bon, c'est bon. » Comme s'il y a là une dernière petite saveur qu'elle sait goûter, même au plus fort de la souffrance, une souffrance qui lui a arraché ce soupir, « J'en peux plus, j'en peux plus. » Elle a ensuite béni chacune de ses filles, imprimant, gravant avec insistance la croix sur chaque front. On pourrait croire qu'elle retrouve pour ce moment sa belle vigueur d'autrefois. Puis, elle s'adresse à toutes ses sœurs, ses filles. Elle réussit à dire, « Vous serez pour Mère Vicaire. » Mère Vicaire, c'est son assistante. Hein? On pourrait dire la prieure, si vous voulez. Mère Vicaire, c'est les termes des Clarisses. Hein? « Vous serez pour Mère Vicaire ce que vous avez été pour moi. Mère Vicaire sera pour vous ce que j'ai été pour vous. » Elle est très belle en cette veille de sa mort. Elle est belle, a frappé toutes les sœurs. Une beauté qui s'affirme, à mesure que semble disparaître l'amaigrissement de ses traits. Au soir de ce vendredi 4 mai 1979, vers 20h30, torturée toujours par la soif, impuissante à parler, visiblement étreinte par l'angoisse que dissimule un sourire plus ou moins indéfinissable, Mère Marie-Claire multiplie les signes à l'adresse de celle qui l'entoure. C'est une nuit interminable. C'est l'agonie. Une agonie lucide, heureusement. Et c'est la douleur à son paroxysme. Et vers 2 heures, Mère Vicaire juge prudent de lui donner une parcelle de la Sainte Hostie. La réaction est immédiate. « Vous m'avez donné le bon Dieu ?» La mère vicaire lui demande, « Vous avez senti une force ?» Et là, mère Marie-Claire a un beau signe de la tête, affirmatif, et un léger sourire. Et déjà, c'est son dernier jour, c'est le matin du 5 mai. Tout son être aspire au soleil, à l'air pur. Et ces mots, à peine perceptibles, « Amenez-moi dehors. » C'est le désir ardent qu'elle éprouve d'être transportée sur son petit balcon. Elle en comprend l'impossibilité car le temps est maussade, c'est humide. À la tombée du jour, quand des franciscains viennent la bénir, elle fait le geste de leur tendre la main. Elle répète ce geste un peu plus tard à la visite de l'archevêque, Mgr Jean-Marie Fortier, et c'est la vigile du Bon Pasteur, cette fête liturgique dont la communauté fait chaque année une de ses plus belles célébrations familiales, en l'honneur d'une bergère, pourrait-on dire, incomparable comme Mère Marie-Claire. Elle ne s'est pas fait mettre au lit pour entreprendre l'ultime voyage. C'est dans son fauteuil, quand ce soir du 5 mai, penchant de plus en plus la tête, elle remet à Dieu tout doucement le cadeau précieux qui lui a fait de la vie. Il est 21h45. Un an auparavant, elle a dit « Je m'en vais miette par miette ». Elle laisse à sa communauté l'héritage de toute une vie. Et ainsi s'achève son pèlerinage, commencé un peu plus de 83 ans auparavant. Gilberte Lapierre est née le 2 décembre 1895 au village de Saint-Antoine-du-Richelieu. Son père était médecin, il s'appelait Henri Marsan Lapierre. Il était natif de Saint-Antoine même. Il était presque le prêtre du village. Henri Marsan Lapierre a épousé une jeune fille de Verchères nommée Fleurine, joli nom Fleurine, Bussière. Gilberte, elle est, c'est le prénom donc de la future mère Marie-Claire, est baptisée le lendemain de sa naissance. Elle est le troisième de cinq enfants vivants. Quatre filles et un garçon, Jeanne, qui va devenir Clarisse à Valleyfield comme elle, Gabrielle, qui va devenir petite fille de Saint-François, toujours dans l'ordre finalement fondé par Saint-François et Sainte-Claire, Gilberte, qui va devenir mère Marie-Claire, Rita, qui va aider ses parents, et Henri. Tout comme ses frères et sœurs, Gilberte reçoit un surnom, on l'appelle Tilou, un bien québécois, hein, parce qu'elle se fâche facilement. Très tôt, quand même, on observe que son petit caractère se transforme petit à petit, et puis elle se met à s'épanouir à l'aise, dans une certaine bonté. Une grande bonté, finalement, qui devient peu à peu la caractéristique indéniable de son caractère. Sa sœur aînée, d'ailleurs, Jeanne, qui est devenue Clarisse, là, mais qui a fondé le couvent des Clarisses de Rivière-du-Loup, des fondatrices, a pu écrire de celle qu'elle appelait Gilles, tout simplement, au lieu de l'appeler Gilberte. Elle était toujours prête à se sacrifier, à donner ses jouets, ses livres, et tout ce qu'elle aimait, pour faire plaisir aux autres. On aurait dit qu'elle n'avait rien à elle. En 1911, on retrouve Gilberte Lapierre, à 15 ans, pensionnaire au couvent des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie à Hochelaga. Elle ne cache pas y avoir connu l'ennui qui serre le cœur, comme dans un sanglot. Mais cet ennui qui l'accompagnera aussi au monastère, surtout durant le postulat, elle va s'ennuyer à ce moment-là, attachée à sa famille. Un événement marque la vie, d'ailleurs, de la famille en 1912, l'année après son entrée au couvent des Sœurs des Saints-Noms de Jésus. C'est le départ de sa sœur aînée, Jeanne, pour le monastère des Clarisses de Valleyfield. Hein? Qu'est-ce que c'était, les Clarisses, dans ce temps-là? Le savez-vous, vous, les jeunes? C'était des femmes qui vivaient dans la joie, mais qui donnaient l'impression à tout le monde de vivre dans le deuil. Pourquoi? Oh là là, c'était très sévère, elles entraient et n'en sortaient plus. Et quand on les voyait au parloir, il y avait une grille avec un voile. Et elles avaient en plus un voile sur la figure, alors les parents ne pouvaient plus revoir leurs enfants. Et elles se promenaient souvent nu-pieds, dit-on, sur la pierre. Et c'était très 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 sévère et pourtant très joyeux. La joie régnait dans ces monastères comme elle règne toujours. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins sévère sur ces plans-là, et c'est plein d'amour quand même. Au foyer des Lapierre, on voit souvent une grande figure de franciscain. C'est celle du père Valentin-Marie Breton, dont je vous parlerai un jour, qui dirige Madame Lapierre dans les voies de la vie spirituelle. Et Gilberte Lapierre trouve aussi en lui un père, hein, qui dit d'elle, d'ailleurs, c'est l'idéal de la Vierge chrétienne. Oui, c'est l'idéal de la Vierge chrétienne que cette Gilberte. C'était à l'époque un très grand compliment. Aujourd'hui, on peut se demander. Mais ça le demeure toujours, je crois. Le samedi 23 septembre 1916, Gilberte Lapierre, à 20 ans, embrasse sa mère pour la dernière fois. Et au bras de son père, et escorté de sa sœur Gabrielle, qui va rentrer quelques jours plus tard en religion, elle se dirige vers le monastère des Clarisses de Valleyfield, là même où Jeanne l'a précédée 4 ans auparavant. Le lundi suivant, c'est au tour justement de Gabrielle de quitter la maison. Elle entre au noviciat des petites franciscaines de Baie-Saint-Paul. 2 départs en 3 jours. Alors que Madame Lapierre, malade, aurait toutes les raisons de retenir ses filles auprès d'elle, 3 religieuses et 3 aînées. On chuchote, évidemment. Puis on commente le fait parmi les proches. On trouve ça épouvantable. Ce qui n'est pas pour adoucir le sacrifice de séparation, évidemment, mais c'est Dieu qui est le maître. Et Dieu a doucement indiqué sa place à chacune des 3 filles. Et pour Rita, la cadette, cette place sera au chevet de sa mère, mais ça va se faire au prix d'un grand renoncement à un idéal de missionnaire qui l'attire. Lorsque Gilberte est admise à la vêture pour porter l'habit des Clarisses le 12 août 1917, soit près d'un an après son entrée, la présence de sa mère manque à cette fête. En s'embrassant le 23 septembre 1916, toutes deux ont eu probablement le pressentiment qu'elles ne se reverraient plus. Il semble évident que dès ce moment, le sacrifice était total de part et d'autre. Quelqu'un a dit, c'est le père Valentin, qui a dit à Mère Marie-Joseph, l'abbesse du monastère, cette Marie-Claire, elle ne peut s'appeler autrement que Claire. Une prière que Sœur Marie-Claire a copiée de sa main et qui vient d'être retrouvée dans ses livres dit très bien l'orientation première de sa vie. Ô Esprit Saint bien-aimé, je voudrais être sainte et je ne voudrais pas être seule à l'être. Je vous en prie, sanctifiez les âmes. Je voudrais être sainte pour glorifier mon Dieu. Et je trouve en moi des impossibilités, mais je me livre à vous, Esprit Saint. Et sanctificateur, par les mains de Marie, faites votre œuvre. En 1932, sa sœur aînée Jeanne, en religion Sœur Marie Immaculée, devient abbesse et fondatrice d'un monastère, comme je vous ai dit, de Clarisse à Rivière-du-Loup. Sur la route de l'allée, on a prévu une halte au village de Saint-Antoine de Richelieu, pour revoir une dernière fois sa mère, qui de plus en plus approche la mort. Cette rencontre, Sœur Marie-Claire a d'abord cru pouvoir la partager car Sœur Marie Immaculée a sollicité et a demandé que sa sœur soit du nombre des fondatrices. Mais Monseigneur Langlois, l'évêque de Valleyfield, voit bien que ces 2 femmes sont des sujets trop remarquables pour qu'on les sépare. Qu'on les envoie ensemble plutôt, c'est-à-dire. Il est consulté puis suggère qu'il est préférable de laisser Marie-Claire, qui doit s'oublier elle-même, au couvent de Valleyfield. Le Seigneur demande beaucoup à Sœur Marie-Claire Lapierre cette année-là, car en novembre, il rappelle à lui sa mère. Une de ses dernières paroles rappelle le souvenir de sa Gilberte. C'est une bonne mère canadienne, une bonne mère québécoise qui dit Ça, en parlant de sa Gilberte, c'était donc un bon petit cœur. Le départ de sa sœur aînée, sœur Marie Maculée, pour Rivière-du-Loup, a laissé vacante la charge de maîtresse des novices. On se tourne naturellement vers sœur Marie-Claire pour poursuivre la tâche. 1932-1940, plusieurs jeunes clarisses devront à mère Marie-Claire une formation où l'exemple de sa vie pour Dieu et sa grande bonté parlent plus encore que ses paroles. Et une novice de ce temps-là a écrit son air paisible, sa grande simplicité, qui faisait qu'elle n'exagérait pas nos lacunes, et son silence était en soi une prédication combien rassurante. Sœur Marie-Claire sait tout bonnement ramener les esprits et les cœurs vers l'essentiel. Par ce mot bien à elle, écoutez bien ça, « Occupez-vous donc d'aimer le bon Dieu. » Et pour elle, aimer le bon Dieu, c'est aussi aimer, comme une mère, les sœurs qu'elle doit désormais guider dans les sentiers de la vie franciscaine contemplative, soit celle des Clarisses. Une novice a affirmé « Ma vocation, je la dois à mère Marie-Claire. C'est elle qui m'a enfanté à la vie religieuse, éclairé ses enseignements, encouragé par la force discrète de ses irrésistibles exemples. C'est elle qui a donné l'élan de mon oui au Seigneur. » C'est ça, maîtresse et novice. Maîtresse et novice, ça transforme les jeunes qui se présentent. Et celle qui se présenterait à Lennoxville, je suis sûr, trouverait là une maîtresse et novice, ce qui les transformerait. Une autre novice d'alors écrit, « Cette chère mère maîtresse avait le don de nous faire rechercher uniquement l'absolu. » De nous faire rechercher uniquement l'absolu. Ça se passe à Lennoxville, ça. Chez nous, il n'y a pas si longtemps. Oui, ajoute-t-elle, cette novice, comme elle était vénérée au noviciat de mon époque. Son rayonnement entraînait. Un jour, je la regardais entrer au cœur, et brusquement, l'espace d'un éclair, j'ai vu s'allumer dans ses yeux deux lumières indicibles. Son regard était une flamme. Je ne pourrai jamais oublier cette flamme. En somme, avec la foi qui l'anime, cette mère Marie-Claire Lapierre sait communiquer à ses novices, à Valleyfield, sa passion pour le sacrifice de la messe. Là s'enracine vraiment sa vie chrétienne et religieuse. Et elle veut que toutes découvrent ce trésor caché. Elle ne va pas vers les dévotions, elle va vers la messe. Sa direction est toute faite de douceur, mais aussi de fermeté, stimulante et pleine d'encouragement pour les plus faibles, et chargée de conseils de modération pour les plus ardentes qui sont portées aux excès dans les pratiques de pénitence. Écoutez bien aux unes et aux autres, elle donne le même mot d'ordre qui est le sien, mais c'est très important. Le devoir d'État, c'est là, mes sœurs, la voie la plus sûre, sans péril d'illusion. Appliquez-vous donc surtout à être toujours contente du bon Dieu. Je répète, appliquez-vous surtout à être toujours contente du bon Dieu. Mais la tâche de mère Marie-Claire n'en est pas une de facilité. Avec son âme de large et paisible horizon, sa perception tout évangélique des choses, mais aussi la sûreté de son bon sens, tout humain, là, cette femme de Dieu va tout droit vers la vie. C'est ça qui l'intéresse. C'est sa pente naturelle, c'est sa façon d'être. Et en cette première moitié du XXe siècle, il y a une accumulation de structures qui risque souvent d'étouffer la vie dans les communautés religieuses. Le concile n'a pas passé avec son grand courant d'air frais donné par le pape Jean XXIII et l'Église entière. On imagine donc quelle qualité de jugement elle possède pour évoluer avec une rare aisance dans toutes les situations. Elle s'est attachée à l'essentiel, puis elle trace des chemins neufs, sans le vouloir, simplement en étant elle-même devant Dieu et pour Dieu, parce qu'il fallait faire beaucoup de transformations. Je vous ai parlé tout à l'heure des voiles sur la figure, etc. Et tout ce que ça implique de mentalité et de façon de comprendre des choses. Il y a un beau témoignage, c'est celui d'une de ces anciennes novices devenues missionnaire Clarisse au Japon. Il jette un si bel éclairage sur Mère Marie-Claire, maîtresse et novice, qu'il mérite d'être cité au long. C'est un peu long, oui, mais c'est si beau. Écoutez ce témoignage d'une Clarisse sur une autre Clarisse. Ces femmes qui sont des sœurs, dans le plein sens du terme. Des filles de Sainte-Claire et de Saint-François d'Assise. C'est daté de Tokyo le 1er novembre 1979. Quelque temps après sa mort, quoi. La mort de Mère Marie-Claire. Au plan individuel, retracer le cheminement de mon appel à suivre le Christ, c'est reconstituer un vécu surabondant de bienfaits, dont l'ampleur et la richesse se découvrent mieux avec le recul des ans. C'est aussi reconnaître, à la lumière de l'expérience, que ce cheminement fut indissociable du rôle exercé par une formatrice méritante, Sœur Marie-Claire Lapierre. Si dans un tour d'horizon, beaucoup pourrait être dit à la louange de cette femme forte, jamais cependant rien ne définira le lien formé avec les âmes qu'elle a orientées vers la vie consacrée. Ce lien est et subsiste en Dieu. J'aimerais mettre au grand jour, dit-elle, cette sœur de Tokyo, là, des parcelles inédites du passé. Mais quel problème de puiser dans l'inépuisable mosaïque de ces parcelles? Et ce qui remonte spontanément à la surface ne date pas d'hier, mais peut se relater. Ainsi, je ferai revivre mon premier souffle d'air respiré à Sainte-Claire le 5 juin 1935 à la nuit tombante. Ah oui, vraiment. Combien ce souffle était chargé d'espoir. Il pénétra assez avant dans les profondeurs de mon être pour transcender tout ce que l'héritage monacal consacrait au cérémonial de réception, que les générations d'autrefois me le pardonnent. Je me souviens, évidemment, et avec délice, d'avoir baisé et reçu, agenouillé, les accessoires du costume, notamment ceinture et cordon évoquant l'azur du ciel de Lourdes, d'avoir aussi fortement intimidé, récité gauchement ma première formule autour de la salle capitulaire. « Ma mère, je vous remercie de m'avoir reçu. » Cependant, le comble de mon émotion est survenu au dernier item de la séance, alors que j'étais toute oreille pour écouter de la bouche de la mère abbesse, « Voici votre mère maîtresse. » Faisait suite à ce premier jalon sur ma route la visite de présentation au royaume des jeunes, c'est-à-dire au noviciat, quoi. Inoubliable ce beau temps, où même à 20 ans passés, une postulante se laissait guider par la main. Mi-confiante, mi-curieuse, mais pieusement, je pérégrinais dans la pénombre, longeant un corridor si étroit et si dépouillé que j'y savourais le dénuement requis pour évoluer sur les traces des saints. Ce fut court comme trajet. Le tunnel, par bonheur, débouchait dans la clarté, au cénacle bien chaud du noviciat. C'est intéressant à lire parce qu'on voit comment on entre dans un cloître pour une jeune fille de 20 ans. Et elle ajoute là, dans un regard d'ensemble, et aussi une autre bouffée d'air pur, j'enveloppai les sourires optimistes de 7 voiles noires et 3 voiles blancs, 2 postulantes et 1 novice. Irrésistiblement, le climat de famille m'enveloppa à mon tour. J'étais conquise. Tout me ravit, jusqu'au nom de chacune. Et tout me confondit de même, jusqu'à l'attitude effacée de la mère maîtresse des novices. La noblesse et la simplicité personnifiées. La noblesse et la simplicité personnifiées. A priori, j'eus conscience de sa valeur comme artère nourricière de cette fraternité évangélique. Mes yeux n'avaient pas encore parcouru les textes de la règle de Sainte-Claire, que j'avais là illustré les bonnes manières d'une sainte vie. Voici une perspective sur les traits dominants de l'animatrice du noviciat dans les années 1935, Mère Marie-Claire. Sur la foi de mon avis personnel, j'avancerai que, par nature, outre une culture vaste et soignée, Sœur Marie-Claire était supérieurement douée. côté intellectuel et côté artistique. Assez jeune, jugé apte au poste de confiance en communauté, partout où ses œuvres étaient requises, on obtenait un maximum d'efficacité. Les contemporains ont bénéficié avec admiration de l'originalité propre, de ce riche tempérament, caché, disons-le, dans un joyeux à part, la bonté du cœur. Humaine, elle l'était au risque d'outrepasser les bornes. Elle savait vibrer à l'affection. Mère Marie-Claire était prodigue de son temps et trop souvent de son sommeil au noviciat. Elle était compatissante et intuitive. Elle paraissait avoir des antennes pour capter la souffrance d'autrui. Oh, puis elle était solidaire de toutes, parfois surchargée, simultanément disponible. Oui, sœur Marie-Claire n'avait au programme qu'un horaire toujours révisable au profit de son souci majeur, quoi, l'amour fraternel. Et là, cette sœur de Tokyo, une Québécoise évidemment, qui a connu au noviciat Mère Marie-Claire, ajoute que le mandat de formatrice était exceptionnel chez sœur Marie-Claire. Sans analyse préméditée, l'œil intérieur de la jeunesse percevait dans la maîtresse des novices, indépendamment de l'instrument humain, un reflet de Dieu qui est amour. Et les témoins de l'époque savent que ce n'était pas du romantisme. Le message de vie que sœur Marie-Claire avait mission d'exprimer ne s'édifiait pas sur une théorie. Non, les novices devaient être avides d'une sainteté mettant l'accent sur le don plénier de soi. Le don plénier de soi. Notre mère rêvait grand et haut. Si elle se montrait indulgente, prompte à saisir les bonnes intentions, nos faiblesses ne la rendaient pas dupe. Elle ne cachait pas son rejet de toute médiocrité. Ouverte au pluralisme du groupe, mais exigeante pour l'union des cœurs, on la sentait préoccupée surtout de l'objectif de nous hausser dans le domaine des vérités éternelles. Était radicalement exclue, ajoute cette sœur, était radicalement exclue de ses propos les termes dépréciatifs sur le prochain. Et que dirais-je encore? Pas le moindrement autoritaire. En elle-même, sa présence avait la force d'un impératif. Nous devions actualiser le paradoxe de vivre en adulte un esprit d'enfance séraphiquement filial. Pour avoir hérité de la formation des vieux âges, sœur Marie-Claire n'aimait pas l'archaïque, on la sentait attentive à la nécessité prochaine d'aérer les structures d'une vénérable ancienneté avec le souci constant de conserver les vraies valeurs. Puis en direction spirituelle, voilà comment elle était, ça se termine ainsi. Hantée par le respect de l'autre et assez peu expansive d'ailleurs, sœur Marie-Claire ne se racontait pas, elle l'écoutait beaucoup. Les plus grands ressorts de sa personnalité comme guide des âmes se remarquaient, écoutez bien, dans une grande faculté d'accueil, un ascendant moral favorisant le climat d'ouverture, un rare talent de pénétration, une inviolable discrétion. Un seul angle s'offrait pour aborder et résoudre les problèmes. Toutes les âmes formées à l'école de sœur Marie-Claire y ont été initiées. C'était l'amour. Voilà ce que dit cette sœur de son autre sœur, son ancienne maîtresse et novice. En 1940, donc, sœur Marie-Cécile de Jésus, qui est archiviste et secrétaire à Valleyfield depuis les débuts, voit sa santé chanceler. Alors mère Marie-Claire paraît la plus apte à la remplacer. Docile, bien, elle passe du noviciat, où elle était maîtresse et novice, au secrétariat. Là, comme ailleurs, elle fait le bien sans bruit. Et elle étonne toujours par une sorte de disposition naturelle, à ne se prévaloir de rien, à s'ignorer elle-même. Quelques mots de sa main retirés des pages de son bréviaire révèlent, pour une grande part, son attitude d'âme devant la vie. Écoutez bien ça. C'est dur. Attendre. S'humilier, souffrir, en esprit et en vérité, dans l'oubli de nous-mêmes. C'est presque destructeur, mais ça ne l'est pas. Car quand on s'oublie pour Dieu, c'est Dieu qui prend toute la place. Quand on s'humilie, c'est l'Esprit Saint qui grandit, qui fait grandir le Christ en nous. que la foi chrétienne est belle et grande. Et une fois la porte tirée sur la nouvelle secrétaire, mais ses anciennes novices qui se souviennent d'avoir parfois heurté à cette porte comme par erreur, pour la joie secrète de la voir s'ouvrir sur celle dont la bonté ne cesse de les attirer, ben une postulante qui l'a connue et qui a changé ensuite d'orientation se rappelle « Quand j'étais chargé du ménage, je m'appliquais à faire plus de bruit avec mon époussette près de son office. Elle se contentait alors de mettre sa main sur mon épaule et de me sourire sans rien dire. Je retrouvais le sourire de maman que je venais de quitter. C'est jusqu'à ces derniers jours sur terre que quelques postulantes et novices qui ont dû quitter le monastère lui font encore visite, et sa solitude et sa vie en Dieu les ont marquées. En novembre 1943, à la mort de son père, elle éprouve un immense chagrin. L'année suivante, elle a le réconfort d'avoir comme compagne Sœur Marie Immaculée, son ancienne novice, à qui elle a donné le nom de religion de sa propre sœur, partie pour Rivière-du-Loup, et avec qui elle va fonder plus tard le nouveau monastère de Lennoxville, et toutes deux se partageaient la charge de secrétariat d'un cœur unique. Mais septembre 1946 apporte une douloureuse surprise, et depuis des mois, des années peut-être, Mère Marie-Claire dissimule sous sa guimpe une hypertrophie de la gorge, et là elle aura des opérations. Mais finalement, tout va se rétablir. Une amie de la famille, qui alors à peine 20 ans, ne peut taire l'impression vivante qu'elle garde. Ses nombreuses visites à l'hôpital, elle dit pour moi, voir le visage d'une Clarisse a été une révélation. Je vous rappelle, elles étaient toujours voilées. Je découvrais qu'elle avait quelque chose de tellement chaleureux, tellement humain. Elle m'avait énormément frappé et attiré. Elle était si proche, si simple, Sœur Gilberte. Et on sentait tellement le cœur chez elle. Elle aimait chaque personne. Elle aimait la nature, les fleurs, l'art, tout l'intéressait. Elle aimait. C'est surtout cela qui me reste d'elle. Alors elle rentre au monastère en 47. Elle a 51 ans. Mais elle se dévoue toujours. Et à part les 2 séjours qu'elle va faire à l'hôpital, Mère Marie-Claire ne s'est jamais alitée, jamais arrêtée, si bien que personne ne songe à s'informer de sa santé. On la croit immunisée contre la maladie, mais la vérité est qu'elle a hérité de ses parents un solide équilibre. Elle a surtout hérité du milieu familial une énergie morale peu commune, puisée à la source d'une foi indéfectible, et voilà qu'elle va fonder Lennoxville, ce que je vous raconterai. Et aujourd'hui, les questions de cette mère Marie-Claire, qui arrive au jour où il y a le projet d'une fondation de Clarisse, à Lennoxville, par les Clarisses de Valleyfield, et Mère Marie-Claire sera l'abbesse fondatrice. Sa compagne de secrétariat, Sœur Marie Immaculée, sera la cofondatrice. Et ce projet ne se rallie pas le sentiment unanime de la communauté, parce que l'idée de céder des sujets soulève plus d'une réticence, et c'est inquiétant de diminuer la communauté comme ça. Et le climat qui existe alors ne rend que plus rayonnante, on peut dire, la lumière que répand Mère Marie-Claire. Elle est tellement paisible et pacifiante. Et plusieurs événements se précipiteront donc de 1949 à 52, sans laisser aux fondatrices le moindre moment pour se livrer à quelques préparatifs que ce soit, parce qu'à la fin de juin 52, finalement, arrive le rescrit de Rome, la permission, quoi, qui approuve officiellement la fondation. Dès le 3 juillet, c'est le premier départ pour aller sur les lieux, jugez si oui ou non il convient d'accepter la maison qui est réservée aux Clarisses. Alors Mère Marie-Claire, qu'on avait toujours vu filer son chemin sans bruit, se met en route, sans retard, mais avec une crainte bien compréhensible. Elle est forte cependant de l'obédience qu'elle a acceptée. Et puis, on part pour quelques jours, on reste 5 mois, 5 longs mois, à réparer puis à aménager en monastère le couvent des sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges qui leur a été cédé. Mère Marie-Claire en parcourt la maison pour la première fois. Puis elle ne peut s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Mais on essuie bien sagement les yeux. et on se fatigue à plein bord. Les deux fondatrices, la joie les anime, mais même si elles doivent bien avoir, comme dit un ouvrier, les jambes usées jusqu'aux genoux, parce que lui, cet ouvrier, est tout essoufflé de leur course de bas en haut de la maison. Puis il y a les veilles. Il faut veiller aussi. Pas dormir très très bien dans un nouvel endroit comme ça, parce qu'elle loge chez des religieuses voisines. Au milieu du chantier, bourdonnant, bien-mère Marie-Claire passe comme la bonté même. Elle est attentive au travail de chacun. Elle est ardente aussi à la besogne. Pour ne citer qu'un trait, d'ailleurs, elle a acquis cette facilité de faire glisser, tourner la truelle avec un tour de main. Et certains jours, les novices franciscains prêtent leurs bras, tandis que leur chant couvre le bruit des marteaux puis des scies. Même Mère Marie-Claire chante un peu avec eux et elle surveille avec tout ça avec sollicitude. Il faut pas dépasser ses forces. Il faut prendre le temps d'un arrêt pour une collation. Et là, le gardien, comme on dit chez les franciscains, c'est-à-dire le supérieur, intervient pour dire aux jeunes franciscains, c'est jeûne aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger. Et elle implore miséricorde, elle dit, ils ont tellement travaillé, les petits frères. Et là, la supérieure générale de la communauté, qui a si fraternellement hébergé les fondatrices durant les mois d'aménagement, a laissé ce beau témoignage. Je vous le lis parce qu'il vaut la peine. Cette chère mère Marie-Claire a laissé à toutes celles qui l'ont connue ici le souvenir d'une personne parfaite. De tout son être émanait un parfum de douceur, de bonté, de paix, en même temps qu'une grande force d'âme qui la rendait présente et attentive à quiconque s'adressait à elle. Son oubli de soi paraissait constant. À son contact, on ressentait une sagesse spirituelle rare, fruit de l'amour, qui remplissait son âme. Il nous faisait dire en la quittant, « Elle est vraiment sainte. » Oui, elle est vraiment sainte, cette bonne mère. Pour rayonner ainsi celui qui l'habite. En décembre 52, mais s'achève donc la longue épopée laborieuse des aménagements. Et puis on commence dans le dénuement le plus total. On se voit maintenant en mesure d'assumer la vie régulière. Et puis, le 7 décembre, dans la cathédrale de Sherbrooke, on voit Mère Marie-Claire, sous son lourd manteau de bure, gravir avec belle simplicité les marches du sanctuaire et recevoir des mains de Mgr Georges Cabanas, archevêque de Sherbrooke, la règle des Clarisses, la Sainte Règle, ainsi que le sceau et les clés du nouveau monastère. Une foule si dense s'est pressée à ce rendez-vous diocésain que les fondatrices ont peine à se frayer un chemin vers la sortie. Puis, elles se retrouvent chez elles, mais suivies de nombreuses personnes, qui circuleront tout l'après-midi dans le monastère fraîchement rénové. Vous savez que c'est une permission très rare, exceptionnelle, parce que vers 19h, la porte là, du cloître se referme définitivement. Ne peut souffrir que devant la reine, le roi, les chefs d'État. Et puis, les filles donc de Sainte-Claire, en s'enfermant ainsi, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent un horizon infini d'une vie de prière et de fraternité en très haute pauvreté. La chronique des débuts du monastère de Lennoxville relate « Je nous revois près de la porte de clôture qui vient de se fermer sur les parents et amis encore présents. Là, dans l'étroit corridor, notre mère Marie-Claire nous a embrassés chacune, puis elle nous a bénis en disant « Soyez unis. » Soyons unis, aimons-nous, soyons généreuses au service du bon Dieu, et il nous bénira. Et comme vous savez, Mère Marie-Claire est morte le 5 mai 1979. Encadrant son cercueil, il y avait deux plaques de céramique. On pouvait lire sur la première, « Sois béni, Seigneur, éternellement béni, de m'avoir créé. » Sur la seconde, « Soyons unis, aimons-nous. » Soyons généreuses au service de Dieu, il nous bénira. Et sur l'autel s'ouvre le testament de Sainte-Claire, aux pages longuement enluminées. Tout près, la crosse taillée a même une branche de la forêt qui redit que les brebis restent sans bergère. Oh mon Dieu, il y avait une foule nombreuse et recueillie. Une foule qui ne cesse de défiler 3 jours durant. 3 jours durant. On a trouvé un petit texte d'elle. Le Seigneur n'a besoin que de saints pour faire son œuvre. On distribue de splendides images à Lennoxville de sœur Marie-Claire. Dieu de toute sainteté, toi qui as fait resplendir en ta fidèle servante, Mère Marie-Claire, la pure simplicité de l'Évangile, et qui lui a donné d'être une lumière sur notre route par sa profonde sagesse surnaturelle, et un modèle attirant par son inépuisable bonté de cœur, accorde-nous de pénétrer les secrets de son âme de prière, de partager sa confiance inébranlable en ta providence, et d'imiter sa foi courageuse et sereine dans les grands et les petits devoirs de chaque jour, et pour que soit bientôt glorifiée dans l'Église celle qui n'a cessé jusqu'à la fin de s'émerveiller pour le don que tu lui as fait de la vie, nous t'en supplions, Seigneur, obtiens-nous, par son intercession, la faveur spéciale que nous sollicitons avec la ferme espérance d'être exaucés. Pour renseignement ou faveur obtenue, on peut communiquer avec le vice-postulateur par l'intermédiaire du monastère des Clarisses, qui est situé au 313 rue Queen à Lennoxville. J1M1K8. Vous pouvez téléphoner, c'est un interurbain pour Montréal, 819-563-5611.